ce sont certaines clés qui vous seront indispensables, je l'espère, pour aller plus loin, parce que ce sont des constantes qui sont nées souvent il y a très longtemps, il y a 14 siècles, mais qui continuent à agir dans la société musulmane de nos jours. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, je ne sais pas comment on fait par rapport à l'écran, et à prévenir s'il y a des points que vous connaissez déjà ou que vous souhaiteriez voir un peu étoffés. Alors, je vais commencer par poser quelques repères historiques pour qu'ils soient bien clairs, pour que la suite soit bien claire, et ensuite procéder en trois parties. La première partie, c'est exposer ce sur quoi tous les musulmans sont d'accord, sans quoi ils ne seraient pas musulmans, donc sur un texte fondateur, sur des dogmes qu'on personne ne remet en cause, comme la résurrection corporelle, par exemple. En seconde partie, je passerai à ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, ce sur quoi il y a des divergences nombreuses, à savoir notamment la question de l'interprétation du Coran et la question de l'autorité religieuse. Et puis, en troisième partie, je m'attarderai plus sur l'islam sunnite, sur la structure conceptuelle de l'islam sunnite, parce que c'est quand même la partie de l'islam qui est majoritaire, qui est la plus représentée en Europe et en France. Donc, on va voir un peu son évolution dans le temps jusqu'à nos jours. Alors, d'abord, quelques mots sur l'histoire, quelques repères historiques. L'islam apparaît dans une histoire. Elle fait corps avec une histoire, et c'est le cas d'ailleurs des autres religions. Le judaïsme fait corps avec l'histoire d'un peuple, la Bible raconte l'histoire d'un peuple, les évangiles racontent l'histoire d'un homme, c'est-à-dire qu'avant de poser des dogmes, il y a une narration, il y a une histoire. Eh bien, en islam, c'est la même chose, il y a certains faits historiques qui se sont produits et qui continuent à être prégnants de nos jours, qui continue à encadrer l'agir, en quelque sorte, des musulmans jusqu'à nos jours. Et donc, il est vraiment indispensable de les connaître pour avoir les références dans le discours et dans les actions de beaucoup de militants ou même de croyants ordinaires en islam. Alors, comme vous le savez, il en a été question lors des cours de M. Amir Moezi, l'islam est né au 7e siècle en Arabie, dans une région qui n'était soumise à aucun État, à aucun empire, c'est-à-dire une région vaste et isolée qui échappait autant à l'empire byzantin qu'à l'empire perse-sassanide et qui a permis au prophète Mohammed non seulement de créer une religion, mais de créer une religion dans le cadre d'un État, ce qui évidemment n'aurait jamais pu avoir lieu si sa prédication s'était produite dans un empire déjà constitué. Mohammed est né à La Mecque, qui est une petite ville du centre de l'Arabie, un oasis pas très prospère, mais où il y avait une bourgeoisie commerçante, semble-t-il, assez active. Quand je dis ville, hein, à l'époque, ça avait peut-être 20 ou peut-être 30 000 habitants, mais guère plus. Le milieu arabe dans lequel Mohammed a vécu était un milieu très divers. Il existait, le Coran en témoigne, un reliquat de religion païenne, mais l'Arabie était quand même largement christianisée et judaïsée. Je ne m'étendrai pas parce que je pense que M. Amir Moezi vous en a parlé, mais le Coran est vraiment très parcouru, disons, de référence à ces deux religions. On connaît peu d'éléments sûrs de la vie de Mohammed, si ce n'est que vers l'année 610. Il affirme avoir reçu une révélation d'un ange qui lui aurait transmis un message venant de Dieu, et d'un Dieu unique, prêchant un Dieu unique, dont il serait le prophète. Il se met à prêcher à ses contribuables, à ses concitoyens de la Mecque, avec assez peu de succès. Certains de ses proches se convertissent, mais ils ne sont pas très nombreux, plus d'une centaine peut-être, mais guère plus. sa prédication est mal prise, il est progressivement isolé, boycotté, voire persécuté, et sa situation devient tellement critique qu'il se résout finalement à quitter la Mecque avec le groupe des convertis, et il émigre en 622 à Médine, qui est une oasis livrée à des conflits internes. Cette oasis accueille Mohammed non seulement comme hôte, mais comme arbitre, comme chef, peut-on dire, de cette petite cité qui se dirigeait elle-même, puisqu'il n'y avait pas d'État, je le répète, en Arabie. 622, c'est vraiment une date clé à retenir. C'est l'année 01 du calendrier musulman. Mohammed s'y installe avec les premiers musulmans. Une partie des Médinois qui étaient païens se convertissent à l'islam. Et dans le cadre de cet État, Mohammed va organiser des campagnes militaires contre la Mecque, contre les adversaires de la Mecque, et progressivement islamiser son État de Médine, et ce qui amène la conversion non seulement de ceux qui étaient païens, mais des autres, et l'expulsion, voire l'élimination physique des tribus juives qui y vivaient. La politique à la fois guerrière et diplomatique de Mohammed, qui était un remarquable homme politique et stratège, amène Mohammed à unifier dans son État une bonne partie de la péninsule arabique. En 630, les Mécois se rendent, et donc l'État, en quelque sorte, musulman, acquiert vraiment toute sa pleine extension. Donc ça, c'est un point très important sur lequel il faudra toujours revenir. L'islam est né dans un cadre étatique dont Mohammed était à la fois le chef religieux, bien évidemment, c'est lui qui disait ce qu'il fallait croire, le contenu religieux de sa prédication, mais aussi également un chef politique. C'est-à-dire que dès le départ, il n'y a pas eu de scission entre eux, ce qu'on pourrait appeler profane ou religieux. En 632, Mohammed meurt de façon inopinée et sans laisser d'instructions quant à sa propre succession. Alors, je passerai sur toutes les hypothèses, sur cette absence de vision sur l'au-delà de sa vie, vision eschatologique peut-être. Mais quoi qu'il en soit, l'État musulman de Médine ne s'effondre pas. Il est repris par ses successeurs, ce qu'on appelle les califes, dont il faut quand même retirer les noms, c'est un peu comme Saint Paul, mettons, par rapport au christianisme. De 632 à 634, Abou Bakr, il fut nommé donc le premier calife, il maintint l'État musulman de façon cohérente, mais le grand fondateur de l'Empire fut Omar, qui régna de 634 à 644, c'est lui qui lança les conquêtes. C'est sous son règne que les conquêtes s'étendirent en Syrie, en Irak, et les Arabes réussirent à vaincre les Byzantins et les Sassanides sur place, et cela de façon définitive, puisque nous y sont restés, le règne musulman n'a jamais été remis en cause depuis. L'expansion musulmane s'est poursuivie avec le troisième calife Othman, qui a régné de 644 à 656. Donc, l'expansion se continue. Il va publier la version officielle du Coran. Monsieur Amir Moïse vous en a peut-être parlé. Mais du fait de questions de politique, de népotisme, il sera à la fois renversé et puis assassiné. Et le quatrième calife, Ali, viendra au pouvoir en 656, mais il s'en suivra une guerre civile dont les conséquences se font sentir jusqu'à nos jours. En effet, les partisans de Ali, appelés chiites, ont été vaincus, mais leur révolte continue malgré la victoire, disons, de leurs adversaires omeyyades. Pourquoi? On va le voir bientôt, parce que leur opposition n'était pas seulement une opposition politique de succession, mais également une opposition profondément religieuse, une autre conception de la vie religieuse. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces événements? D'abord, les musulmans donc ne se sont jamais constitués en église. Ils ne possèdent pas de dignitaires religieux. Et c'est un point un peu difficile à saisir quand on essaie d'organiser en quelque sorte le culte, comme vous le savez bien. L'islam est né dans le cadre de l'État, mais sans identifier non plus l'ordre religieux à une structure d'État. Sans doute que les premiers musulmans n'avaient pas encore conscience de créer une confession tout à fait distincte à ce moment-là du monde. Ce n'est que plus tard, à l'époque abbasside, donc à partir de 750, que des hommes de religion vont apparaître et ces hommes de religion, on va s'attarder dessus, c'était des juristes, c'était ceux qui disaient le droit. Ces juristes étaient désignés par l'État musulman et rémunérés, disons, par des biens de main morte, ou actuellement ils sont rémunérés par des ministères. Simplement, eux, ils restaient, alors que les États passaient, les coups d'État se déroulaient, les dynasties se succédaient, mais les hommes de religion, eux, restaient sur place. Ils sont devenus un élément stable dans la société. Donc, il y a en quelque sorte un corps d'hommes de religion, mais ce corps d'hommes de religion, je le répète, sont d'abord et avant tout des juristes. J'espère que c'est clair. Alors, d'abord, première question, ce sur quoi les musulmans sont tous d'accord. Alors, ce sur quoi ils sont tous d'accord, je pense qu'il faut éviter ici de parler d'une orthodoxie musulmane. Parfois, on parle du sunnisme comme une orthodoxie musulmane. Je crois que c'est une erreur de langage. D'abord, ce n'est pas parce qu'une religion est majoritaire qu'elle est orthodoxe. Dire ça, c'est vraiment donner un jugement de valeur alors que l'observateur neutre n'a pas à le faire. Et ensuite, parce que l'orthodoxie est étrangère. Le terme orthodoxie est étranger à la vision religieuse de l'islam. En effet, il n'y a pas d'instance qui permet d'excommunier, de dire le dogme. Ça n'existe pas. Ce qui existe en islam, ce qui est accepté de tous, c'est un noyau de foi, un noyau de points de foi, sur lequel il se trouve que tout le monde est d'accord. Il s'agit d'abord de la foi dans l'unicité et l'unité de Dieu. Il s'agit ensuite de la foi dans la mission prophétique, la mission des prophètes, dont Mohammed est le dernier, dans les livres sacrés, dont le Coran est le plus parfait, dans la résurrection des morts pour le paradis ou pour l'enfer. Toute personne qui a foi, qui proclame sa foi dans ces points-là, peut être considérée comme musulmane de plein droit. Alors, au-delà de ce noyau, il peut y avoir des courants, des personnes qui affirment d'autres points de foi. Par exemple, les chiites affirment un troisième point de foi, non seulement que Dieu est unique, Mohammed est son prophète, mais une troisième attestation de foi, c'est que Ali est l'ami de Dieu. Pour eux, la religion n'est complète que si on affirme la mission de Ali. Mais ceci dit, les sunnites considèrent que les chiites ajoutent quelque chose, ils sont des innovateurs, mais pour autant les chiites restent des musulmans. Les pèlerins chiites peuvent aller à la Mecque accomplir leur pèlerinage. Donc, ce ne sont pas des excommuniés. C'est pour ça qu'il faut bien garder à l'esprit cette image d'un noyau de foi, et puis après, tout autour, comme une constellation de courants plus ou moins rationalistes, plus ou moins mystiques, plus ou moins politisés dans tel ou tel sens. Alors, pour aller reprendre les points, les musulmans sont tous d'accord sur l'axialité du Coran. Là, tout le monde converge, à savoir que le Coran est la parole de Dieu, le Coran, c'est-à-dire l'ensemble des révélations que le prophète Mohammed a reçues depuis l'an 610, à année de sa première révélation, jusqu'en 632, année de sa mort. le Coran, dans sa version finale, enfin la version actuelle en tout cas, vous savez sans doute qu'il y a des gens qui contestent, mais enfin bref, regroupe quelques 6300 versets écrits en arabe littéraire, dans un style particulier, qui lui est particulier, rythmé et cadencé. Il s'agit d'une réunion de fragments dans un ordre qui n'est pas chronologique, qui n'est pas narratif, plutôt qui contient des narrations, mettons des prophètes, Adam, Noé, Abraham, Jésus, mais de façon fragmentée. Il y a des exhortations, il y a des prescriptions juridiques, mais tout cela sans regroupement thématique particulier. Le tout est évoqué sur un style homélitique de prédication. Et d'ailleurs, le Coran est une prédication profondément. Alors, le texte coranique une fois fixé, c'est-à-dire en 654 selon la tradition, sous le califat de Othman, l'aventure intellectuelle de l'islam ne faisait que commencer, car inéluctablement s'est posée la question de l'interprétation du texte sacré. Donc, tout texte, bien sûr, doit être interprété, ne peut être que interprété, a fortiori un texte dont l'auteur, qui serait Dieu lui-même, n'est bien sûr pas là pour commander l'interprétation. Les interprétations se rencontrent à chaque verset. Telle prescription alimentaire ou vestimentaire est-elle un conseil ou bien un ordre formel ? Tel ordre, mettons, de partir au combat du jihad est-il limité à certaines personnes, en certains moments, ou bien en tout moment et à tout le monde. Est-ce que tel récit doit être pris au sens littéral, que, par exemple, mettons les châtiments, les tortures dans l'enfer, ou bien sont-ils des symboles, des souffrances qui seraient d'un niveau haut ? Et si jamais il faut interpréter, qui va interpréter ? Et là, comme on va le voir, de multiples interprétations peuvent surgir. Mais sinon, sur le fait que le Coran soit la parole de Dieu, tout le monde est d'accord. Un deuxième point sur lequel tous les musulmans sont d'accord, c'est sur le rituel. Et ça, il faut le souligner, tous les musulmans du monde accomplissent la même prière, à quelques minuscules détails près. On peut suivre le même jeûne du Ramadan, le même pèlerinage. Et ça, c'est un des caractères fondamentaux de l'islam, d'être avant tout une orthopraxie. On ne discute pas beaucoup sur le dogme, mais l'important, c'est surtout de pratiquer de la façon juste. Cette orthopraxie s'est fondée historiquement, elle est mentionnée que partiellement dans le Coran. Le Coran ne décrit pas la prière, même si vraiment, parle un peu du pèlerinage, un peu de l'aumône, mais disons que tout cela, c'est la tradition prophétique qui va le construire. Donc voilà, ce sur quoi tous les musulmans sont d'accord, c'est principalement ça, le Coran et son message, bien sûr, et ensuite le rituel, l'orthopraxie. Il faut qu'il souligne cette étonnante unité de la communauté musulmane depuis la Chine jusqu'au Maroc, au niveau du rituel. Alors, maintenant, sur quoi les musulmans ne sont-ils pas d'accord? Le courant sunnite, qui est le courant majoritaire, je le disais, s'est constitué progressivement au cours des siècles. Il n'est pas né spontanément, ce qui est, contrairement à ce que disent les salafistes, qui représentent l'islam originel, en fait, non, le sunnisme, c'est vraiment élaboré principalement au IIe et IIIe siècle de l'ère égérienne. Deux questions cruciales se sont posées, je viens d'en parler. D'abord, qui a le droit d'interpréter le Coran ? Sachant que l'islam est dirigé dans un cadre politique. Qui a le droit, qui veut prendre la parole pour dire voilà la vraie interprétation du Coran et puis imposer cette parole s'agissant par exemple des données juridiques. Deuxième point, comment doit-on procéder pour comprendre le texte sacré? Je viens de dire qu'un verset peut être compris de façon extrêmement différente, allégorique ou non, impératif ou non, bon, Donc, il y a énormément de questions d'interprétation qui vont se poser. Alors, première question, qui a le droit d'interpréter? Cette première question a suscité une première réponse qui est celle du chiisme. Où je ne rappelle pas la crise de succession que vous connaissez. Donc, Ali, le quatrième calife, a été renversé. Il a perdu militairement, il a été assassiné en 661. Mais à la suite, ses partisans ont considéré que ses descendants avaient porté en eux l'autorité de leur père, que c'est Ali qui devait être le successeur légitime du prophète, et que donc les autres califes étaient des usurpateurs. Et donc le chiisme s'est posé comme force d'opposition politique pendant des siècles et jusqu'à nos jours. Mais le point que je voudrais souligner ici, c'est que le chiisme n'est pas simplement une revendication légitimiste. Ce n'est pas simplement de dire l'autorité politique doit appartenir à la famille de Ali. Ça va beaucoup plus loin. Les chiites affirment que Dieu, dans sa justice, n'a jamais laissé la communauté musulmane sans un guide sûr et infaillible. Ce guide sûr et infaillible, c'était Ali, et ce sont les successeurs très précis de Ali, un par génération, que les chiites appellent les imams. Alors là, ici, il y a un point un peu délicat, ne pas confondre imam pour les chiites, c'est-à-dire chef charismatique, infaillible, missionné par Dieu, avec imam dans le sunnisme, qui est simplement la personne qui dirige la prière dans la mosquée et qui peut être éventuellement simplement l'épicier du quartier. Donc, pour les chiites, Dieu a envoyé un imam pour chaque génération. Et cet imam est quelqu'un qui n'est pas prophète, mais qui est quand même garanti par Dieu pour ne jamais se tromper. Dieu lui envoie des anges pour lui expliquer les messages et les solutions. C'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite du texte sacré. Et c'est lui, et lui seul, qui est amené, qui a le droit de dire la vérité et qui a le droit de dire le droit. En ce sens-là, je veux dire, tous ceux qui parleraient à sa place, peuvent donner leur opinion, mais seul lui fait autorité. Pour cela, les chiites disent que les sunnites ont mutilé la foi. En effet, dans le sunnisme, il y a les oulémas, les juristes qui donnent leur explication, mais ces explications ne sont pas valables, elles sont simplement humaines, alors que seuls les imams peuvent dire le vrai, et donc les sunnites sont condamnés à errer. Alors, les chiites donc, vont développer leur théorie, vont résister au pouvoir sunnite qui était dominateur, et vont eux-mêmes prendre le pouvoir au XVIe siècle en Iran, l'Iran étant donc devenu le principal pays où le chiisme est une religion d'État et où le gouvernement exerce son autorité même en l'absence d'un imam visible. On pourra revenir sur le chiisme si vous désirez, parce qu'évidemment, il n'existe pas à l'heure actuelle d'imam visible. Alors, il y a de nombreux courants à l'intérieur du chiisme qui ont des imams différents et des visions de l'imamat différentes, mais je ne vais pas m'attarder dessus, ça nous entraînerait tant. En tout cas, le point, c'est que la majorité des futurs sunnites ont réagi vivement à cette position. Ils refusaient l'idée que les imams des chiites aient été infaillibles, d'abord parce que politiquement, ils ne voyaient pas qu'ils devaient diriger la communauté, et ensuite parce que ça aurait été une manière de dire que tous les autres califes auraient été purement et simplement des usurpateurs. Qui plus est, ils estimaient, et ça c'est un point fondamental, que c'est la communauté musulmane dans son ensemble qui est en charge de l'interprétation, de dire l'interprétation vraie. La communauté dans son ensemble, à travers le travail, la personne des savants, bien sûr, mais il n'existe pas de personne charismatique qui puisse revendiquer ce pouvoir. Alors, la deuxième question, comment interpréter le Coran elle est en quelque sorte, elle va de soi pour les chiites, puisque c'est les imams qui interprètent le Coran. Par contre, il faut ici noter l'émergence dès le deuxième siècle, deuxième, troisième siècle de l'Égypte, c'est-à-dire pour nous huitième et neuvième siècle, d'un courant rationaliste qui va profondément marquer l'histoire de l'islam, même s'il n'a pas eu gain de cause. C'est le courant mu'tazilite. Bon, là, évidemment, je ne peux pas l'écrire. Le courant mu'tazilite, pour qui le principal outil de l'exégèse, c'est le raisonnement humain. Pour eux, comme Dieu est juste, Dieu a envoyé aux hommes un livre clair, qu'il doit être clair, parce que Dieu n'a pas envoyé une révélation, un Coran qui serait flou, incompréhensible. Et comme Dieu est juste, il a envoyé à tous les hommes un outil pour comprendre cette révélation claire. Et cet outil, c'est la raison. Donc, en principe, le raisonnement humain doit suffire pour comprendre et interpréter le Coran. Et cela de façon libre. Alors, ce n'étaient pas des rationalistes au sens moderne du terme, mais disons qu'ils étaient très, très optimistes, disons, avec l'idée qu'au final, c'est quand même la raison humaine qui doit trancher. Mais cela se heurtait à un nombre de questions exégétiques énormes. Comment lire le Coran ? Fallait-il lire le Coran littéralement ou bien en y voyant des figures de rhétorique ? Dans le Coran, Dieu est décrit avec un certain nombre d'attributs anthropomorphiques. Il est question de la main de Dieu, de l'œil de Dieu. Il dit que Dieu est assis sur son trône. Il affirme que les bienheureux dans l'au-delà regarderont leur Seigneur. Il est question par ailleurs de la colère de Dieu. Comment, si Dieu sait tout, peut tout et tout-puissant, comment peut-il se mettre en colère? Alors, ces expressions gênaient la volonté de rationalité des mu'tazilites. Pour eux, Dieu étant complètement transcendant, il n'était pas question de lui attribuer des membres ou des qualités physiques ou des traits de psychologie humaine. Comment Dieu pourrait-il connaître cette faiblesse qu'est la colère? Aussi, les mu'tazilites interprétaient les passages coraniques en question comme des métaphores. La main de Dieu est une métaphore pour la puissance de Dieu. Son œil évoque sa science. Sa colère exprime la direction de sa volonté. Et cela, donc ces thèses mu'tazilites, et c'est un point qui marquera l'histoire, ont rencontré le refus d'une partie importante, majoritaire des musulmans qui sont devenus les sunnites. Pour les sunnites, le Coran est totalement et intégralement vrai. Car si on se met à interpréter le Coran en disant « ouais, ceci c'est une métaphore, là c'est une allégorie, là c'est juste une image », si l'esprit humain se met à juger la parole divine avec sa capacité de rationalité, c'est que la raison prend le pas sur la révélation, et du coup, si la révélation est jugée à l'aune de la raison, elle perd même sa raison d'être, puisqu'après tout, les hommes pourraient très bien se guider par eux-mêmes. Donc, l'apparence assez abstraite, disons, de ce débat sur les attributs divins ne doit pas masquer les enjeux réels. Ce sont vraiment deux visions de la personne humaine qui se sont affrontées au IXe siècle à ce moment-là. Pour les mu'tazilites, il y a une vision optimiste de l'homme est un animal rationnel. Cette vision a été partagée par des califes. Plusieurs califes de l'époque, notamment le calife Mamoun, qui en a fait une doctrine d'État en 1832. Et ses deux successeurs vont également défendre les idées mu'tazilites, mais en 850, le calife Mutawakkil fait volte-face et le mu'tazilisme va être par contre condamné et le sunnisme deviendra le dogme de l'État. Donc, si on fait une uchronie, c'est-à-dire une utopie dans le temps, on pourrait imaginer qu'est-ce que serait-il passé si les mu'tazilites avaient eu gain de cause. Certains disent qu'il y aurait pu y avoir à ce moment-là à Bagdad la renaissance italienne ou quelque chose d'analogue. Enfin, on peut en débattre, on ne saura jamais. Mais en tout cas, le fait est que le mu'tazilisme avait atteint une classe d'intellectuels, mais que le petit peuple, et les savants, les juristes, eux, n'avaient pas pris ce chemin-là. Alors, maintenant, un troisième point, qu'est-ce que le sunnisme, au fond ? Pour venir au fait, on a vu ce que tous les musulmans partagent, disons. On a vu les grands points de débat sur l'interprétation du Coran. Fondamentalement, quels sont les fondements du sunnisme ? Alors, contrairement au mu'tazilisme, qui est une doctrine assez optimiste quant à les capacités de l'homme, la vision sunnite des choses est plus pessimiste. Pour le sunnisme, la raison humaine est un outil faible, erratique, lorsqu'elle se met dans le domaine moral et surtout dans le domaine religieux. L'homme se croit raisonnable, mais en fait, il est un être pulsionnel, il est un être passionnel et il agit par passion et il ne fait qu'utiliser sa raison après pour se justifier a posteriori. En fait, l'homme est incapable d'établir des valeurs morales tout seul et a fortiori, il est complètement incapable de connaître par lui-même le salut éternel, ni comme il faut agir, ni comment il sera jugé. Donc, les hommes ont un urgent besoin d'une révélation venant de Dieu sans laquelle ils seraient voués à la perdition. Donc, fondamentalement, une position de faiblesse de l'être humain. Et donc, si jamais donc le Coran leur est donné comme une lumière sur leur pas, les hommes ne peuvent comprendre leur chemin que par le Coran, et ce n'est pas la raison donc qui éclaire le Coran, c'est le Coran qui éclaire la raison, et si jamais le lecteur du Coran ne comprend pas tel ou tel aspect, tel ou tel verset, il faut admettre que c'est parce que la raison humaine est trop faible et que le Coran contient une sagesse qu'ils ne peuvent atteindre. Donc, contre les mu'tazilites, le sunnisme prône une lecture très littéraliste et fidéiste du Coran. Alors, vous allez me dire, c'est bel et bien, et il faut quand même interpréter le Coran. On ne peut pas lire le texte du Coran de façon complètement littérale. Et surtout, il fallait établir un droit, un système juridique qui puisse s'appliquer, donc il fallait pouvoir interpréter à minima les versets de portée juridique qui se trouvent dans le Coran. Alors, historiquement, le sunnisme développa l'idée qu'il faut se rattacher à l'exemple et à l'enseignement du seul homme qui n'était pas pécheur, du seul homme qui n'était pas faillible, à savoir le prophète Mohammed. Le pivot de tout ce qu'on appelle sunnisme, c'est l'idée que c'est le prophète Mohammed qui seul dit le vrai, dont la parole est en quelque sorte garantie par Dieu. La vénération pour le prophète Mohammed se développa à ce moment-là, et donc, de même que le Coran est vrai et garanti contre l'erreur, de même, le porteur du Coran est lui aussi garanti contre l'erreur. Et des récits vont affirmer que le prophète était doté d'une science universelle, voire cosmique. Il connaît la totalité du passé, il connaît ce qui va se passer à l'avenir. Et tous les récits, les anecdotes de la vie du prophète seront expliqués comme des commentaires vécus de la révélation coranique. Et c'est ainsi que c'est à cette époque-là que s'élabore en matière religieuse le deuxième pilier du sunnisme, c'est-à-dire l'enseignement du prophète Mohammed qu'on appelle la sunna, d'où le nom de sunnisme, c'est-à-dire sunna, sa coutume, sa manière d'agir. Cette attitude fondatrice est résumée, était prise parce qu'elle résumait ce que les sunnites voulaient montrer d'eux-mêmes, les partisans de l'enseignement de la sunna du prophète et de la communauté. Donc, le fondement de l'attitude sunnite, à savoir l'homme n'est pas en mesure de se guider seul vers le salut, il a impérativement besoin d'une guidance surnaturelle, va engendrer une forme de pensée référant fondamentalement à des textes sacrés, à savoir le Coran et les paroles attribuées aux prophètes qu'on appelle les hadiths. Le hadith, donc, c'est l'unité textuelle sur laquelle la sunna est fondée. Donc, on a pu dire avec raison qu'en islam sunnite, toute question est en définitive un problème d'exégèse. Alors, commençons par l'étude et la compréhension du Coran lui-même, aidé par le hadith. On a vu que pour les chiites, pour lire le Coran, pour interpréter le Coran, il fallait recourir à ce que disaient les imams. On a vu que pour les mu'taziliques, pour comprendre le Coran, il fallait élaborer un raisonnement théologique. Dans le sunnisme, l'attitude fondamentale est le recours à l'enseignement supposé de Mohammed. Et du coup, la science du hadith constitue une des disciplines clés de la pensée musulmane. C'est vraiment un des points qui est le plus fondamental et qu'on ne saisit pas toujours. Le sunnisme, c'est la religion du Coran plus hadith. Le texte sacré de l'islam sunnite, c'est Coran plus hadith. Le Coran ne peut pas jouer sans le hadith. Donc, il est illusoire de vouloir appréhender la pensée musulmane sunnite en parcourant le Coran seul. Vous pouvez faire la tentative de prendre une sourate du Coran, mais si vraiment vous lisez le Coran comme ça, sans aucun autre document, vous verrez que le texte est par moments à peu près incompréhensible, et il a été rendu compréhensible pour les sunnites par l'ajout de toute une série de hadiths ou de récits se rapportant à la biographie du prophète. Il est d'autant plus difficile d'établir un ordre juridique parce que, au niveau juridique, le Coran donne très peu de détails, il donne des injonctions d'ordre général, quelques ordres concernant le mariage et les divorces, l'adoption des enfants, les héritages, mais c'est au fond assez peu de choses. Une centaine, disons, de versets qui ont un sens précis et 400 peut-être qui ont un sens juridique un peu général. Donc tout ce qu'on appelle droit musulman s'est construit à partir avec l'aide du hadith. D'où l'importance de bien s'arrêter sur cette question de hadith qui est souvent mal connue. Alors qu'elle est essentielle et à mon avis elle est aussi une des principales pierres d'achoppement de ce qu'on appelle le réformisme musulman actuel. Il y a un courant actuel, enfin qui s'est développé surtout depuis les années 1990, qu'on appelle les coranistes. Les coranistes sont des intellectuels musulmans qui disent « Nous, notre religion se fonde sur le Coran seul. » Et ils récusent l'usage des hadiths, affirmant que les hadiths ont été falsifiés, que la plupart ne sont pas fiables, qu'ils sont contradictoires. Donc il y a de nombreux livres qui ont été écrits pour montrer comment soit le Coran contredit le hadith, soit les hadiths se contredisent entre eux, soit que la chaîne de transmission n'est pas bonne. Enfin bref. Et donc, leurs parutions ont été lues par les savants sunnites et en 2010, il y a eu un avis officiel donné par l'Université Al-Azhar et signé par le plus grand nombre des savants disant que les coranistes sont des apostats. C'est-à-dire affirmer qu'on croit dans le Coran, mais qu'on ne se fonde pas sur l'enseignement de Mohammed, exclut de l'islam. Exclut de l'islam. C'est donc un jugement extrêmement grave. C'est pire que les chiites, bien sûr, parce que là, ils ne font plus partie de la communauté et ils n'ont plus le droit d'exister, en principe, dans un pays régi par la loi musulmane. Alors, en effet, pour revenir à cette époque où la laboratoire a élaboré à récolter le plus grand nombre possible du prophète. Nous sommes ici au 9e siècle principalement, et alors des intellectuels se sont mis à effectuer de longs voyages jusqu'en Asie centrale, jusqu'en Égypte, enfin partout où ils trouvaient des renseignements sur la mémoire que des personnes pouvaient avoir de paroles de Mohammed. Il faut voir quand même que cela fait deux siècles plus, disons, de différence. Donc, il y a eu des collections de hadiths, dont les plus connus sont ceux de Boukhari et de Muslim. Boukhari est décédé en 870, Muslim en 875, et qui sont des recueils de paroles du prophète. Mais tous ces chercheurs de hadith se sont vite rendus compte du caractère assez incertain de leur collecte. Parce qu'en effet, un bon nombre de ces hadiths étaient transmis avec des variations dans la formule, dans les contenus. On présentait comme hadith des paroles douteuses moralement un peu bizarre, les dangers de forgerie de hadith étaient grands parce qu'il était tout à fait tentant pour un pouvoir ou pour n'importe quel intérêt de donner une parole en disant voilà, c'est un hadith du prophète Mohammed. Par exemple, le régime Omeyyade qui avait pris le pouvoir par force avait fait circuler des hadiths impliquant que tout ce qui arrivait était voulu par Dieu, c'est-à-dire que s'il y avait un calife qui prenait le pouvoir, ce calife était là par la volonté de Dieu. Et des hadiths affirmant, par exemple, « obéir au calife, c'est obéir à Dieu », c'était bien sûr des hadiths qui avaient une portée politique claire. Et puis, il y avait des pieux auteurs qui n'hésitaient pas à attribuer leur propre méditation au prophète Mohammed en disant « bon, après tout, c'est des bonnes choses, ça ne peut faire que du bien à ceux qui croient que c'est un hadith ». Or, ces pratiques de falsification menaçaient dans son fondement le sunnisme lui-même. En effet, s'il n'y avait plus de certitude sur la qualité, sur la réalité de l'attribution des hadiths au prophète Mohammed, dans ce cas, il n'y avait plus aucun socle stable sur lequel le droit et la foi sunnite pouvaient se fonder. C'est pour cela que ces collecteurs de hadiths ont entrepris un travail absolument colossal de vérification. Cette vérification consistant non seulement à récolter la parole même du prophète, mais à récolter aussi la chaîne de transmission qui allait, si possible, de la personne qui vous disait la parole du prophète jusqu'au prophète lui-même. Donc c'est une chaîne de transmission qui apparaît comme j'ai entendu un tel qui m'a dit qu'un tel lui avait raconté, qu'un tel lui avait dit que, etc. Et donc c'est une chaîne qui peut être très longue, que l'envoyé de Dieu, le salut soit sur lui, avait dit que, bon, en quelque sorte, ouvrez les guillemets, et voilà. Donc cette chaîne de transmission venait garantir qu'il y avait là une authenticité qui était solide. Ceci dit, bien sûr, toutes les chaînes de transmission n'étaient pas d'égale qualité. Les collecteurs, qui étaient des gens souvent extrêmement scrupuleux, avait pour rétablir des chaînes à 2 siècles de distance n'arrivait souvent pas. Donc il y a des chaînes qui étaient interrompues, il y a des chaînes qui arrivaient aux générations avant le prophète, le prophète lui-même, il y a des chaînes qui étaient uniques, moins sûres donc que ceux qui étaient qu'un hadith qui avait des chaînes multiples. Alors la science du hadith est d'une complexité extrême, et pour simplifier, on peut regrouper les hadiths en 3 catégories principales. D'abord, les hadiths saints, S-A-I-N-S, dont la chaîne de transmission est complète, éventuellement multiple, ce qui est mieux évidemment. Les 2 recueils que j'ai cités, de Bukhari et Muslim, ne comprennent que des hadiths saints. Ceux-ci sont abondants dans le domaine du rite et de la morale. Donc, ces livres sont assez sûrs dans ce domaine-là. Une deuxième catégorie de hadiths sont les hadiths bons, dont les chaînes de transmission ne sont pas parfaites, mais elles peuvent être uniques, incomplètes ou de qualité douteuse. Mais les hadiths bons ne sont pas pour autant délaissés, parce qu'ils peuvent être très, très utiles, notamment dans le domaine juridique. Et enfin, les hadiths faibles sont des hadiths dont les chaînes de transmission sont soit vraiment incomplètes, soit vraiment douteuses, mais qu'on a repéré quand même comme faibles. On aurait pu les éliminer complètement, mais on les repère quand même comme faibles, en disant qu'après tout, peut-être, bon, même si on n'est pas assuré, ça a pu être une exhortation pieuse que le prophète a pu prononcer. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce que pensent les chercheurs, les universitaires sur cette collecte des hadiths? En fait, les universitaires, depuis la fin du XIXe siècle, qui ont examiné les hadiths, veut forger un hadith, l'inventer de toutes pièces, il peut tout aussi bien forger de toutes pièces une chaîne de transmission. Et que d'une certaine manière, à partir du moment où on a eu besoin de chaînes de transmission pour fonder le droit, les chaînes de transmission sont devenues plus nombreuses et les hadiths peut-être aussi plus douteux. Ceci dit, ce que dit la recherche contemporaine ne rejette pas la valeur des hadiths. Elle ne dit pas que tous les hadiths sont faux. Il dit simplement, nous n'avons pas les moyens scientifiques actuellement de prouver qu'aucun soit vrai. Donc, ça, c'est une appréciation qui restera à jamais, sauf si nous avions des nouveaux manuscrits, suspendus à des analyses sur des textes plus récents que les paroles qui ont été dites. Cela va de soi. Alors, à partir de là, donc, l'islam sunnite se construit, le Coran, lecture littérale du Coran si possible, le hadith qui vient appuyer la lecture littérale du Coran, ou la compléter. Comment cet islam se pense-t-il? Nous avons vu que le sunnisme se pense d'abord et avant tout comme une orthopraxie. Et c'est quelque chose, là encore, qui fait grande différence par rapport au christianisme. Dans le christianisme, le personnage central est quand même le théologien. Ce sont les théologiens qui ont élaboré la pensée sur laquelle s'articule la foi. Et cette foi, le credo, qui conduit le croyant à adhérer à telle église ou à rejeter telle autre. Donc, les églises chrétiennes se sont fondées sur des débats théologiques très élevés et souvent abstraits sur la nature du Christ, sur la portée des sacrements, sur la prédestination, etc. En islam sunnite, la situation est très différente. Pour le sunnisme, Dieu est profondément inconnaissable. On ne peut aucunement spéculer sur sa nature ou sur son comportement, puisque la raison est trop faible pour le faire. On ne peut dire de lui que ce qu'il a bien voulu révéler dans le Coran. Autrement dit, la théologie n'est pas absente, Mais la théologie se fonde essentiellement sur une exégèse. La théologie est une réflexion exégétique. Fondamentalement, c'est une affaire de grammairien, c'est une affaire de, oui, une affaire de, d'herméneute. Bref, donc en tout cas, même dans le cas de l'exégèse du Coran, ce n'est pas la théologie qui prime. Il y a des théologiens sunnites, il y en a eu de nombreux, de remarquables, mais ils n'ont pas, c'est pas autour d'eux que se focalise la pensée. Et lorsque des jeunes musulmans font des études en sciences religieuses, ce n'est pas du tout la théologie qui constitue la partie principale de leur enseignement. Ce qui est principal de leur enseignement, c'est le droit. En effet, Dieu ne demande pas aux hommes d'être connus, il demande aux hommes d'être obéis. Le point, c'est d'accomplir la volonté de Dieu par le culte et par la morale. Donc les deux éléments centraux de la vie du musulman, ce qu'il faut connaître, c'est d'abord le culte dans son exacte formulation, la prière, comment, les ablutions, à quel moment faire les prières. Bon. Donc, d'une part, avec tous les détails, les livres portant sur le culte sont extrêmement détaillés. Et deuxièmement, donc, le respect de normes sociales voulues par Dieu. Parce que Dieu a voulu que les hommes respectent des normes sociales dans le mariage, dans les relations intercommunautaires, etc. Donc, le personnage central dans la vie religieuse n'est pas le théologien, c'est le juriste. Lorsqu'on parle des hommes de religion, je le répète, les oulémas, il s'agit surtout de savants spécialisés dans le droit musulman. C'est donc au cours de ce même 9e siècle, 10e siècle, qu'a eu lieu l'élaboration du droit musulman. Et on a dit que c'est à partir du 10e siècle que les portes de l'interprétation se sont fermées, des grandes écoles de droit se sont constituées. Alors ça n'empêche pas, même si ces quatre écoles juridiques existent et se sont constituées de façon définitive, elles sont toujours là, ça n'a pas du tout fermé l'effort de réflexion juridique. Il se peut qu'une question juridique qui n'ait pas du tout été posée auparavant. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive très souvent dans le monde moderne. Et dans ce cas, on demande à un spécialiste de ce domaine de droit, qu'on appelle un mufti, on lui demande un avis juridique. Et à ce moment, ce mufti donne un avis juridique qu'on appelle une fatwa. Donc le droit musulman, pendant des siècles, hein, depuis le 10e siècle jusqu'à nos jours, a beaucoup progressé, a évolué plutôt dans ce rapport incessant des questions juridiques et des fatwas qui ont été données. Alors, je n'entrerai pas dans le détail du raisonnement juridique, simplement pour dire qu'en principe, on a proposé, le droit musulman se fonde sur des bases qu'il se définit lui-même, la première base étant le Coran, ce qui est tout à fait logique, c'est la parole de Dieu, c'est une des principales racines du Coran. La seconde base, c'est le hadith. Le hadith, si clair, d'après tout ce que je viens de dire, le hadith non seulement vient compléter le Coran, mais si le hadith se prononce sur un cas qui n'existe pas dans le Coran, le hadith fait loi. Donc c'est dire que le hadith a un rôle fondateur. Ceci dit, même les hadiths ne suffisaient pas pour fonder le droit. D'abord, les hadiths qui ont une portée juridique ne sont quand même pas infinis. Ils sont peut-être 4000. Et puis, de toute façon, un hadith ne peut pas clore l'interprétation. Si le hadith permet d'interpréter le Coran, après, il faut interpréter le hadith lui-même. Je veux dire, la chaîne interprétative n'en est pas close pour autant. Alors, après, que faire? Les juristes hésitaient beaucoup à proposer une opinion personnelle qui était vraiment ce qu'il y avait de plus dangereux, de plus pernicieux. Il fallait éviter l'opinion personnelle et essayer de rester dans l'axe de ce que pouvait être la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont fait appel à ce qu'on appelle un raisonnement par analogie, à savoir essayer de ramener une question non connue à ramener un cas déjà connu, dont quelle est l'attitude à adopter face aux hallucinogènes. Eh bien, le Coran ni le Hadith ne parlent pas d'hallucinogènes, mais ils parlent de l'alcool. Donc, par un rapport analogique, on peut statuer sur ce que le droit musulman peut affirmer concernant les hallucinogènes. Et enfin, et ça c'est un autre point que j'aimerais souligner, le quatrième point qui vient construire le droit musulman s'appelle le consensus de la communauté. Le consensus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la communauté des musulmans, enfin par la voix de ses savants bien sûr, par la voix de ses juristes, approuve un rite ou approuve un point de foi, explicitement ou tacitement, c'est-à-dire ne vient pas le contredire, eh bien, ce point de droit est considéré comme conforme à la volonté divine. Et à mon sens, même si les sunnites ne le disent pas de cette façon-là, c'est ce dernier point, le consensus, qui est le pivot de l'ensemble. Un hadith affirme « ma communauté ne tombera jamais d'accord sur une erreur ». Mais en attendant, c'est quand même le consensus qui a fondé la foi. C'est le consensus qui a affirmé que le hadith serait la deuxième source du droit après le Coran. Donc, sans le consensus, rien ne pourrait fonctionner. Or, comme l'a été dit et répété, il n'existe pas en islam d'instance religieuse prenant sur elle de décider des points essentiels de droit ou de dogme. Rien qui soit analogue à un collège épiscopal ou à des synodes. Donc il n'y a pas de réunion. Tout cela se passe de façon assez informelle. Et donc, c'est la pratique de toute la communauté, les débats qui peuvent résulter de toute la communauté qui permettent de dire, voilà, ça c'est notre foi, ça c'est ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et vous voyez bien que pour établir le consensus de toute une communauté, s'étalant sur 3 continents ou maintenant sur toute la planète, c'est pratiquement impossible. Ou en tout cas, ça prendra de très très longs siècles. Surtout qu'avant, au Moyen-Âge, les oulémas étaient un nombre restreint, une élite restreinte qui pouvait communiquer et aboutir à clore des débats malgré tout, même si ça prenait des siècles. Mais à l'heure actuelle, il y a des millions de musulmans qui ont fait des études universitaires et qui, sans être des hommes de religion, ont leur mot à dire, ont leur opinion sur la foi. Et il y a actuellement, surtout depuis qu'Internet existe, un échange d'idées absolument phénoménal, d'idées très souvent contradictoires, enfin des débats contradictoires, qui font apparaître que à la fois l'islam contemporain est extrêmement vivant et fécond, mais en même temps qu'un nouveau consensus me paraît assez difficile à établir, alors que malgré tout ce consensus me paraît assez indispensable si on veut s'adapter au monde moderne. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je continue sur le dit monde moderne. Mais... Ou sinon, on peut laisser les questions à la fin. Je ne sais pas.
Oui, tu peux peut-être faire ça, Pierre. Si tu peux prendre 5 minutes pour réexpliciter les différentes... peut-être pas les différentes tendances qu'il peut y avoir ou qu'il y avait, à moins que tu le traites dans la question du monde moderne, mais par exemple le maraboutisme, le soufisme, ces éléments-là.
Ah oui, si, ça, je vais en parler. Oui, je vais en parler tout à la fin. Je vais en parler tout à la fin. Alors, en réponse aux invasions coloniales et à l'irruption de la modernité, toute la communauté musulmane, bien sûr, s'est mobilisée. Et à partir de là, des réponses, bien sûr, ont eu lieu. Des réponses qu'on peut, très grossièrement, bien sûr, résumer à deux attitudes de base. Il y a une première attitude qu'on appelle, qu'on peut appeler le réformisme. Une autre attitude qui est un modernisme plus radical. Ce qu'on appelle le réformisme, c'est au moment où le choc colonial, le choc de la modernité a été reçu, ce sont des intellectuels qui ont dit « Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation de faiblesse ? Pourquoi est-ce que l'Occident est arrivé à nous dominer alors que pendant des siècles, c'était au contraire les États musulmans qui dominaient le monde ?» Eh bien, la réponse, ce n'était pas de remettre en cause les fondements de la religion musulmane, c'est de dire « Non, c'est parce que nous avons dévié des fondements de notre religion, c'est parce que nous sommes éloignés des principes du Coran et du Hadith que nous nous sommes affaiblis. » Et donc, il y a cette idée qu'il faut revenir aux sources, il faut épurer la religion de toutes les superstitions mystiques et donc cette volonté de réformisme voulait s'ouvrir au monde moderne, mais en fait leur façon de s'ouvrir au monde moderne, c'était aussi de clôturer ce qui faisait la base de l'islam, à savoir le Coran et le Hadith. C'est une façon de dire, on veut bien introduire un système bancaire, on veut bien libéraliser les règles judiciaires, mais il ne faut pas toucher ni à la lettre du Coran, ni au principe de l'infaillibilité du prophète Mohammed. Et ça dure jusqu'à nos jours. C'est quelque chose qui bloque un petit peu la pensée, pas un petit peu, qui bloque beaucoup la pensée réformiste, à savoir, il ne faut absolument pas remettre en cause ces deux piliers que sont le Coran et la Sunna. D'ailleurs, dans ce courant réformiste, il y a des éléments qui vont jusqu'à récuser profondément le monde moderne. Par exemple, le wahhabisme qui est né en Arabie et qui se répand maintenant à travers le monde et qui est une façon de dire non, les règles coraniques et les règles du prophète Mohammed sont simplement les meilleures. C'est elles qui peuvent mener les hommes au salut et il ne s'agit pas de s'adapter, disons, à un monde moderne, erratique, pour ne pas dire satanique. Ou encore, autre mouvement moins radical, mais peut-être plus structuré aussi et répandu, le mouvement des frères musulmans qui cherchent à réislamiser la société en disant « oui, on veut bien moderniser la société, les écoles, les hôpitaux, on veut bien adopter tout l'outillage technique que propose l'Occident, mais il faut garder les valeurs morales, les rapports sociaux, les valeurs spirituelles proposées par l'islam. » Donc, je sais que je résume vraiment de façon très grossière, mais en fait, il y a quand même cela qui, dans tous ces mouvements qu'on appelle réformistes, constitue un blocage lequel blocage est participé et ratifié, disons, par les immenses masses de croyants de par le monde musulman. À cela s'oppose une pensée rénovatrice qui, elle, est beaucoup moins nombreuse, qui est portée par des intellectuels dans les pays musulmans ou un peu partout de par le monde, qui consiste à dire il faut accepter les principes universels. Quels sont les principes universels? Pour résumer, c'est tous les humains sont souverains, c'est-à-dire que chaque être humain a le droit, qu'il soit un homme ou une femme, quelle que soit son orientation sexuelle, il a le droit de disposer de sa vie. Partant de là, on considère que le Coran peut avoir des choses à dire pour la spiritualité, mais le Coran est un livre qui est daté, qui appartient à une période historique et dont il faut retirer le message spirituel, mais non pas le message social. Alors, je ne vais pas citer trop de noms parce que je ne peux pas les afficher, mais par exemple, dès 1925, Ali Abdelfazer professe la chose suivante. Lorsque Mohammed était à Médine, il était à la fois chef religieux et chef politique. Eh bien, quand il est mort, il n'y avait plus de chef religieux, mais du coup, la politique est redevenue simplement politique. Donc, l'État musulman, à partir de 632, n'a rien de sacré. Et il faut redonner à la politique sa dimension purement humaine qu'elle avait. L'État est purement séculier. Il y a une séparation entre la religion et entre l'État. En 1947, un autre Égyptien, Mohamed Khalaf Allah, écrit un livre, il est professeur de littérature, disant « Le Coran est un livre littéraire qui cherche à convertir son public. » Et pour ce faire, il utilise des procédés de rhétorique. Le Coran n'est pas un livre d'histoire. S'il parle de récits de Moïse qui affronte Pharaon, ce n'est pas pour faire œuvre documentaire historique, c'est parce qu'il y a un message à transmettre. Donc pour lui, le but, c'est de convaincre. Il faut accepter que le Coran soit un livre littéraire, un texte littéraire. Pour Abu Zayd, encore un Égyptien, il faut prendre en compte le fait que c'est tout le Coran qui est un message envoyé par Dieu à une époque particulière. Le Coran s'adresse à une époque où les Arabes vivaient avec des chameaux dans un cadre très précis, avec des rapports sociaux très précis. Si Dieu avait voulu révéler sa parole dans le monde moderne, il ne l'aurait pas révélé en parlant de chameaux, de chevaux d'oasis. Enfin, il y a quelque chose. Donc, pour comprendre le Coran, il faut étudier d'abord la société arabe du début du 7e siècle. Là aussi, tout ça, je vous donne ces idées, mais chacune ont fait scandale. Chacun des noms que je vous cite ont été censurés et ont dû démissionner de leur poste. Voilà, je pourrais citer d'autres noms de professeurs qui affirment ce qu'on appelle l'islam à l'heure actuelle, c'est une construction des juristes au fil des siècles, mais le noyau divin, le message divin profondément, a été en fait noyé, en quelque sorte, a été recouvert, a été stérilisé en quelque sorte, le monde moderne, le monde musulman s'interdit de participer au débat du monde moderne parce qu'il s'est enfermé de l'intérieur dans la propre maison qui s'était construite. Alors, bon, je sais que c'est très bref et très schématique, c'est quelques résumés sur le monde musulman contemporain, la pensée musulmane contemporaine, enfin, c'est le temps qui presse. Et je me permettrai d'ajouter simplement encore un petit chapitre sur la mystique en islam. Pourquoi la mystique en islam? Parce que c'est un élément très important de la diversité dans la société musulmane depuis plus de 12 siècles maintenant. C'est une des grandes virtualités de la pensée musulmane. Nous, en Europe, en territoire chrétien, quand on parle de mystique, on pense à des ermites dans la montagne, on pense à des moines au fond des monastères. En islam, ce n'est pas du tout le cas. Les confréries mystiques regroupent des centaines de milliers, parfois des millions de membres. Donc, c'est une société, comme vous savez, il n'y a pas de monachisme, hein, le célibat, le monachisme est tout à fait déconseillé. Et donc, les gens qui appartiennent à des confréries mystiques, à des confréries soufis, sont le plus souvent des pères de famille ou mères de famille qui travaillent. Et donc, ça peut concerner des parts très importantes de la population d'un pays. Dans le seul pays où l'importance du soufisme a été mesurée, c'est en Égypte, où le ministère des Affaires religieuses l'avait ordonné de faire un recensement. À une époque où l'Égypte avait 60 millions d'habitants, il y avait 6 millions d'adhérents aux confréries soufis. 6 millions d'adhérents masculins, donc sans préjuger des adhérentes femmes et sans soustraire non plus les coptes, la population copte qui au fond n'était pas concernée par ce recensement. Donc c'est dire que même de nos jours, le soufisme vraiment est une des grandes potentialités, disons, de la société musulmane. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mystique ? En islam, un peu paradoxalement, la définition est assez claire. C'est-à-dire que le musulman ordinaire, le musulman sunnite commun, va pratiquer sa religion du mieux qu'il peut, va pratiquer la morale de sa religion, dans l'espoir, bien sûr, d'une récompense dans l'au-delà, et dans l'au-delà, au paradis, lui a été promis non seulement les plaisirs du paradis, mais également la présence de Dieu. Le musulman mystique, c'est celui qui pense que la rencontre avec Dieu, la rencontre avec la présence divine, est possible non seulement dans l'au-delà, mais en fait dès ici-bas. Donc les confréries mystiques, les milieux mystiques, affirment qu'ils sont des écoles, en quelque sorte, d'apprentissage où l'on peut faire l'expérience de la présence divine à l'intérieur de soi. Alors, quelques repères historiques. Les mystiques musulmans affirment que le premier d'entre eux a été le prophète Mohammed et que Mohammed a été le premier à initier ses compagnons à la vie mystique. Cette affirmation ne se justifie par aucun document. Rien ne permet de l'attester. En fait, il semble que les premiers mystiques, c'est-à-dire les premières personnes dont vraiment on voyait que leur recherche spirituelle allait dans cette évolution-là, ont les repères, disons, au 8e siècle, 2e siècle de l'Égypte, 8e siècle, où on voit à une époque où les oulémas, les docteurs de la loi devenaient importants, devenaient riches, fréquentaient la cour, eh bien, il y a eu tout un groupe d'ascètes qui, au contraire, s'éloignaient de la cour, s'éloignaient des villes, recherchaient une pratique tout à fait pur et détaché de la vie mondaine. Donc, ça s'est manifesté par ce retrait et ces hommes étaient extrêmement populaires. Ça correspondait aussi à un besoin de la société qui allait voir ces ascètes et leur donnait une importance de plus en plus croissante et notamment une importance religieuse. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'à cette époque, ces mystiques ne faisaient aucune propagande. On venait les voir. La fameuse femme ascète, Jaber al-Ardawiya, qui est décédée en 801, était une femme inculte qui habitait du côté de Bassara en Irak. On a beaucoup de paroles rapportées d'elle, mais elle n'a jamais rien écrit. Elle ne savait sans doute pas écrire du tout. Mais on venait la voir et on recueillait des fioretti. Et alors, au IXe siècle, le courant a pris tellement d'ampleur que le débat s'est mis à enfler, et il y a eu un grand procès à Bagdad en 1877, parce qu'il y a un juriste qui a dit « Ces mystiques, ces soufis, ils parlent de l'amour de Dieu ». Ils parlent de l'amour de Dieu, c'est-à-dire ils disent qu'ils aiment Dieu et ils disent que Dieu les aime. Or, c'est blasphématoire, car comment est-ce que Dieu, qui est parfait, n'a besoin de rien, pourrait-il aimer un être humain, puisque pour aimer, il faut forcément être en manque de quelque chose. Et comment un être humain, petit, infime, pourrait-il avoir la capacité d'aimer un Dieu qu'il ne peut pas connaître, qu'il ne peut pas comprendre. Donc, dans les deux cas, la proposition est inacceptable. Un procès a eu lieu Et bon, les chefs principaux soufis de l'époque, qui ont eu de la personnalité, de l'entre-gens, ont réussi à exciper quelques versets coraniques pour montrer qu'ils avaient, il y avait bien, bel et bien des versets qui permettaient de justifier cette idée de l'amour divin. Petit à petit, donc, l'idée d'une nouvelle spiritualité qui faisait éclosion en islam s'est répandue. Mais elle n'était pas acceptée et elle a, en quelque sorte, la crise s'est manifestée de façon ouverte à l'occasion de la prédication d'un grand mystique qui était Hallaj. Hallaj a été exécuté en 922. Donc Hallaj, H-A-L-L-A-J, qui était un mystique de l'école de ceux qui, en Irak, à l'époque, se regroupaient, échangeaient leurs expériences spirituelles. C'était, quant au fond, c'était il disait la même chose que ses congénères, mais simplement, les autres mystiques restaient très discrets. Et lui, Hallaj, par contre, était quelqu'un de très expansif, de très provocateur, qui au lieu de rester dans les petits milieux des soufis de Bagdad, a beaucoup voyagé et partout, allé prêcher dans les souks, allé rencontrer les gens, les riches, les pauvres, les chrétiens, les juifs, les brahmanes. Et il essayait d'éveiller la population à la mystique, c'est-à-dire de dire à son auditoire, mais réveillez-vous, le Dieu que vous cherchez, le Dieu que vous priez, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas loin, loin, loin dans le ciel. Et cela a commencé à inquiéter les milieux politiques. En effet, il faut se souvenir qu'en islam, tout l'édifice théologique et juridique est fondé, je viens de le dire, sur la prophétie de Mohammed. Aucun être humain ne peut faire intermédiaire entre les hommes et Dieu, hormis le prophète Mohammed. Tout passe par lui, toute vérité théologique passe par lui. Et alors, dès lors, si maintenant apparaît tel ou tel mystique qui affirme recevoir des messages de l'au-delà, qui affirme être uni à Dieu, qui se met à écrire des poèmes ou de faire des discours comme si Dieu parlait à travers lui, il y a là une attaque indirecte mais grave contre tout l'édifice théologique de l'islam sunnite. Et c'est pour ça qu'au terme d'un long procès qui a duré 8 ans, un peu plus de 8 ans, Hallaj, mis en prison, a dû subir un interrogatoire très long et finalement a été condamné à mort et supplicié de façon spectaculaire à Bagdad en 922. À partir de cette grande crise, un modus vivendi s'est établi entre les milieux soufis et les pouvoirs publics, disons, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agissait. Personne n'interdisait aux soufis d'avoir les expériences intérieures qu'ils voulaient, mais il ne fallait pas que cela trouble l'ordre public. Et c'est ça le critère essentiel, et jusqu'à nos jours, on peut croire beaucoup de choses, on ne va pas vous persécuter chez vous, mais il ne faut pas que cela trouble l'ordre public. Et c'est le point vraiment très, très important. Du coup, les soufis se sont regroupés en groupes qu'on appelle généralement des confréries dans des couvents un peu spécialisés où ils se retrouvaient entre eux. Ils accomplissaient leurs rituels entre eux la structure, disons, d'une confrérie est au fond assez simple. Il y a au sommet de la confrérie un maître spirituel qu'on appelle un cheikh. Ce maître spirituel est censé avoir traversé toutes les étapes du voyage vers Dieu, avoir connu l'union à Dieu, C'est un homme parfait en quelque sorte, puisqu'il a été investi par la grâce, par la baraka de Dieu, et qui en plus est capable d'éduquer les disciples et de les amener progressivement vers aussi vers cette même union. Auprès du maître se trouvent des disciples proches qui voient le maître régulièrement, chaque semaine. Le maître leur donne des exercices à faire, des litanies à réciter très précisément, très ponctuellement. Le maître interprète leurs rêves, par exemple, et il les guide, il les encadre. Et puis, il y a autour du maître et des disciples proches toutes sortes de sympathisants qui viennent voir le maître comme ça, pour avoir sa bénédiction. Ils offrent des cadeaux au maître en échange, ils espèrent avoir la bénédiction du maître. Ils viennent demander des talismans, éventuellement, des prières. Et alors, ce qui explique qu'autour des maîtres soufis, ce soit progressivement rassemblé des milliers et des milliers de gens. C'est ainsi que ces confrères soufis, à partir surtout du XIIIe siècle, sont devenus parfois des véritables mouvements de masse. Et de nos jours encore, il y a des pays comme le Sénégal où il y a peut-être 60% de la population qui appartient à une confrérie soufie. Hein, on appelle ça confrérie maraboutique là-bas, mais en fait c'est une confrérie soufie. Dans Tchétchénie, c'est aussi les confréries soufies qui structuraient la société. Donc on voit que par ce biais-là, la confrérie mystique a atteint une très grande profondeur dans l'emprise sociale. Il ne veut pas dire que dans la confrérie soit bien sûr lui-même mystique. Alors, je passerai sur les grandes figures de la mystique musulmane qui sont parfois des grands intellectuels, parfois des grands poètes comme Rumi, le fondateur des derviches tourneurs à Konya, pour essayer de conclure alors sur la portée du soufisme à l'heure actuelle. Évidemment, à l'heure actuelle, le soufisme, qui avait un impact énorme jusqu'au début du XIXe siècle, a perdu son influence à cause de l'enseignement à l'occidental. Il a perdu son influence à cause de l'urbanisation. Il a perdu son influence aussi parce que les régimes wahhabites ou pro-wahhabites l'ont combattu. Ils affirmaient que le soufisme était une des causes d'affaiblissement de la société musulmane. Le soufisme a été certainement un bouc émissaire, disons, pour le réformisme musulman. Le soufisme a été combattu par les régimes marxistes, Union soviétique, Albanie, dont les régions musulmanes ont été très touchées par de véritables persécutions. Et globalement, les laïcs, comme par exemple Mustafa Kemal en Turquie, a interdit sur son sol toutes les confréries mystiques. Donc, le soufisme a été affaibli par tout cela, mais il reste quand même une force importante, une force sociale dans beaucoup d'endroits, comme j'avais parlé du Sénégal, mais aussi au Maroc, dans d'autres pays, et puis une force morale chez beaucoup de personnes dans le monde musulman, chez des milliers de personnes qui, sans appartenir forcément à une confrérie, adhèrent à cette forme de religiosité et qui est d'autant plus intéressant qu'au fond, elle se tourne spontanément vers une différenciation entre la spiritualité intérieure et un ordre politique qui, lui, n'a pas de vocation à l'éternité. Voilà, je préfère m'arrêter ici pour avoir du temps pour les questions, développer tel ou tel autre point.